Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marivonne Bolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, L'art face à 1917, une série documentaire de Perrine Kervran, réalisée par Ghislaine David. Au départ de cette série, il y a un centenaire, ou plutôt plusieurs, celui du chemin des dames, de la révolution russe, de l'urinoir, de Duchamp, de la constitution mexicaine, de l'ouverture de la galerie Dada, des joueurs de cartes, de Léger, des mamelles de Tirésias et des folies de Jacques Vacher et André Breton. Il y a aussi cette idée que le monde comme il va ou comme il ne va pas touche les artistes et se retrouve en creux ou en relief dans les poèmes des uns ou sur les toiles des autres. Et puis le fait que front ou pas front, les villes continuent à vivre et les artistes à créer, les théâtres à se remplir dans un contexte de guerre qui prend toute la place, alors le rideau se lève et la parade commence. Alors pour commencer, les personnages. Une historienne qui vit son sujet, un conservateur aux mains gantées, la bohème de Montparnasse, une historienne qui défend Apollinaire, une commissaire qui cherche les traces de l'amour dans la peinture, et Satie, Picasso, Diaghilev et Cocteau. Ensuite, le décor. Des musées silencieux, des îlots de verdure, quelques oiseaux, les travaux dans la ville, les couloirs de l'opéra et un café près d'une gare, le Ballet Parade, comme un événement. Aujourd'hui, deuxième épisode, on n'est pas loin de Montparnasse. Alors on est arrivé passage de Danzig, donc on n'est pas loin de la porte de Versailles. On est aux deux passages Danzig devant ce qu'on appelait à l'époque la ruche, ce qui était en 1917, mais déjà depuis 1902, une cité d'artistes. Alors on va déjà pousser cette grille. Pendant la guerre, l'avant-garde continue.
Ce qui est assez formidable, c'est qu'on est accueilli par de la nature. Et ça, quand on lit les livres d'histoire de l'art, elle vient pas, cette nature, on sait pas qu'elle est dedans. Et là, il y a des arbres, il y a du lierre sur les murs, des murs en briques. Et très, très intéressant aussi, c'est une espèce d'architecture mondialisée, mixte, métissée qui nous accueille. On sait que ce pavillon central de la ruche était récupéré de l'exposition universelle de 1900. Donc un pavillon à la structure arrondi, avec des alvéoles, peut-être c'est ça qui a donné ce nom, la ruche, choisie par le fondateur. Et puis autour, d'autres pavillons, d'autres bâtiments, et puis entre ces pavillons, des cours, des jardins, des espaces donc arborés, avec des buissons, où là ils sont en fleurs. Il y avait des forsythias, j'ai vu tout à l'heure, comme un fruitier, peut-être un pommier. C'est vraiment très intéressant de se dire que justement dans cet espace de briques et de brocs, de récupération, venus d'un peu partout, on avait des artistes de partout.
Alors justement, si on arrive ici en 1917, devant ce bâtiment circulaire de briques et de métal, qui est-ce qu'on pouvait croiser? À quoi ça pouvait ressembler? Qu'est-ce qui pouvait se passer?
Alors c'était un lieu où il y avait beaucoup d'activités, comme une ruche, ça aussi ça joue, où les artistes venaient, travaillaient, se rencontraient. Donc il y avait ceux qui avaient un atelier permanent. Par exemple, on sait que Robert Delaunay, Fernand Léger ont eu un atelier ici. Marc Chagall aussi, Archipenko, Soutine aussi, K.M. Soutine. Et puis il y avait évidemment les copains qui venaient, les amis critiques, les amis poètes. Parfois les poètes étaient eux-mêmes artistes, comme Max Jacob. Apollinaire est passé, bien sûr, lui qui soutenait toute cette avant-garde des années 1910-1914. Et donc parmi les plus pauvres, les artistes se retrouvent. Alors la ruche, c'est quand même une petite exception parce que c'est plus au sud, peut-être une bonne vingtaine, trentaine de minutes de Montparnasse. Tout ce quartier qui est en pleine ébullition et qui a accueilli de nouvelles galeries aussi, surtout après la guerre, mais qui commence à se développer du côté marchand aussi pendant la guerre.
Alors on va faire le tour peut-être donc de ce pavillon circulaire, comme ça on pourra voir comment sont disposés les ateliers, et puis après on va aller s'abriter justement dans un atelier. On est entouré d'arbustes, de buissons.
Parfois accroché au mur, une cage à oiseaux. Et même on peut voir à travers certaines fenêtres comment les ateliers sont structurés. On voit la mezzanine, on voit plein de choses, du matériel d'artiste, des toiles, des châssis, des grands papiers, des grands cartons.
Quelques sculptures de plâtre. On a la clé. Et donc là, on va rentrer dans l'atelier. Donc là, on voit effectivement, Béatrice Joyeux-Prunelle, à quoi ça pouvait ressembler, ces ateliers. Celui-là, il est plus grand que les autres. Je pense que c'est peut-être deux ateliers qui ont été
réunis pour faire une entrée. Réunis probablement assez tôt, parce que l'escalier qui est là semble assez ancien. Les ateliers sont petits, mais pour un artiste, c'est quand même du luxe par rapport à une chambre de bonne dans les quartiers parisiens. Ça n'a rien à voir. Déjà, c'est plus haut, c'est plus lumineux. Et puis, vous avez deux espaces. Vous avez l'espace du bas, là où on peut amasser son matériel, peindre sur des grandes toiles, travailler, dessiner sur le nu. On a un poêle à bois, probablement, ou à charbon, pour que le nu n'ait pas trop froid. Et puis, à l'étage, cette mezzanine donc, qui permettait, évidemment, de dormir, voire de s'aimer. Et la lumière qui arrive de l'extérieur et qui permet une illumination la plus longue possible, parce qu'on n'avait pas tous les matériels électriques que nous avons aujourd'hui.
Oui, parce que là, si on traverse effectivement cet atelier, on voit qu'il y a cette très grande baie vitrée qui permet d'éclairer la pièce très très largement.
Le métro nord-sud venait de s'ouvrir. J'habitais à cette époque-là à La Ruche. On descendait le boulevard Montparnasse.
Aussi Pzatkine.
On regardait un petit peu par quelques instants cette vieille dame victorienne qui était la gare Montparnasse. On sortait avec Modigliani, n'est-ce pas, dans la rue. On s'arrêtait au coin du boulevard Montparnasse et Raspail. Et on attendait que les copains passent. Et on tapait. Avec un franc, on allait manger pour 75 centimes. Et avec le reste de 25 centimes, on allait faire le nabab au café de la Rotonde. Et on entendait de temps en temps des noms extraordinaires. Tantôt Apollinaire, tantôt des gens que je ne connaissais pas, qui parlaient de la peinture, parlaient de Picasso.
Alors, grand amour ou amourette, guerre ou pas guerre, exil, engagement ou embuscage, les artistes travaillent. Entre avant-garde et vieille école, entre provocation et esprit de sérieux, et dans une concurrence souvent féroce. Et puis ils vivent, se rencontrent, se fâchent, se regroupent, et depuis novembre 1910, ils prennent le métro, sur la ligne nord-sud, qui relie Notre-Dame-de-Lorette à la porte de Versailles, comme un pont sur la Bohème qui passerait par la Ruche, la Grande Chaumière, le Dôme, l'Académie Vassiliev, la Cité Falguière et le bateau Lavoir. Et cette impression que les artistes suivent le tracé des rails pour installer leurs ateliers. Et quand on traverse aujourd'hui la rotonde voûtée de la station Saint-Lazare aux carreaux de céramique blanc et vert, eh bien on marche encore un peu dans leurs pas. Béatrice Joyeux-Prunelle.
Il y avait évidemment les cafés, les dancing aussi, hein, pour Montparnasse, on n'était pas très loin du Balbulier par exemple, où les Delaunay, Robert et Sonia allaient danser dans leurs habits simultanés. On a aussi évidemment les ateliers avec ce qu'on appelle des académies. Alors, c'était pas des académies au sens traditionnel du terme, mais c'était des écoles où certains artistes qui avaient les moyens de créer un atelier un peu plus grand recevaient des élèves. Il y a aussi le marché aux modèles. C'est des endroits où les artistes pouvaient trouver des modèles qui venaient et qu'ils allaient payer pour la journée pour pouvoir travailler sur le nu. Tous sont à peu près dans les mêmes rues et c'est fascinant de voir comment d'une année sur l'autre, un Catalan va succéder à un autre Catalan ou alors un Américain au sens états-unien va succéder à un autre états-unien. Et là, ce sera un Mexicain et puis un Uruguayen. C'est vraiment très intéressant pour voir une espèce de, à la fois de mélange, mais aussi de segmentation par nationalité ou par langue qui caractérise l'ébullition de Montparnasse et le fait qu'il y a besoin de nouer des sociabilités qui permettent de s'y retrouver quand on arrive de loin vers 1906. On a des grandes vagues d'artistes qui arrivent. Ce sont les Juifs qui fuient les pogroms de Russie, d'Ukraine. On voit arriver aussi des gens de Roumanie qui viennent parce qu'ils savent qu'à Paris, il y a des choses qui se font, mais en même temps, c'est pas parce qu'ils arrivent à Paris qu'ils vont tout de suite arriver à faire leur place. Et donc, il faut qu'ils s'accrochent à des réseaux, à des groupes, à des communautés nationales. Et ça, on les retrouve justement dans Montparnasse plus qu'ailleurs.
Je me souviens ni où ni par qui j'ai connu Apollinaire. Je sais qu'un jour, je me suis trouvé dans sa maison, boulevard Saint-Germain. Il recevait, je crois, le samedi après-midi, vers 6 heures, comme ça.
Giorgio De Chirico.
Et je suis allé là, et puis j'étais encore là quelques fois, mais je m'embêtais beaucoup chez lui.
Mais que se passait-il dans
ce Mais rien, salle. Il y avait un tas de gens assis sur des divans et des fauteuils, la plupart ne parlaient pas. Il y avait Max Jacob seulement qui parlait. Il avait une façon de parler un peu comme ça, narquoise, un peu comme les chansonniers de Montmartre quand ils circulent entre les tables des clients en se moquant d'eux. Puis il y avait, je crois, un peintre roumain qui s'appelait Marcoussi. Il y avait un sculpteur qui s'appelait Brancusi, un peintre roumain qui avait une barbe comme un fakir. Et lui ne parlait pas. Seulement de temps en temps, il s'approchait à quelqu'un, à moi aussi, et comme disait tout à coup qu'il sentait une grande joie intérieure, comme quelqu'un qui aurait dit « j'ai mal au ventre ». Derain était toujours assis dans un fauteuil, fumait la pipe et ne disait pas un mot. Je crois qu'il y avait Messinger, un peintre cubiste, qui s'appelait Messinger, puis il y avait des vagues peintres étrangers, des Allemands.
Annette Becker, comment est-ce que Guillaume Apollinaire entame l'année 1917 ?
En fait, il l'entame le 31 décembre 1916, puisque ce jour-là, tous ses amis, poètes, écrivains, artistes, font un grand banquet en son honneur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un banquet en l'honneur du poète enfin guéri, puisqu'il a été blessé en 1915, trépané tout de suite, mais très longtemps malade, très longtemps affaibli. Et donc, c'est la fin de la maladie. Et c'est en même temps le retour aux activités poétiques d'avant-garde qui étaient les siennes avant la guerre. Alors que 1917, avec le tournant de ce retour à l'avant-garde qui le fête en cette fin d'année 16, l'année 17 va être extrêmement riche. Il n'est plus soldat sur le front, mais il est toujours soldat. Et donc on a presque cet oxymore de soldat de l'avant-garde. Au banquet, il y a à la fois des écrivains comme Max Jacob, des peintres comme Picasso, qui sont ses amis depuis toujours, et puis d'autres soldats combattants. Et un autre qui en particulier était très pané comme lui, qui est Braque. Le menu du banquet, c'est à la fois vin rouge de la Casse d'Armont, champagne des artilleurs. Il était donc artilleur, et la Casse d'Armont, c'est ce qu'on attache au canon pour poser son matériel. Mais aussi hors d'œuvre cubiste, orphiste, futuriste. Donc le banquet est tout à fait symptomatique de l'homme double qui est devenu Apollinaire et que sont la plupart des contemporains de cette époque. Apollinaire, d'un point de vue politique, est un nationaliste. Et il portait pendant très longtemps une bande au front qu'il aurait pu enlever quand la trépanation était terminée, mais pour bien faire remarquer qu'il n'était pas un embusqué, mais qu'il était un blessé de guerre, qu'il était un héros quelque part. Avec des jeux, il disait « je suis un blessé capital ». Capital parce qu'il est blessé à la tête, mais un blessé d'une grande importance, parce que être blessé à la tête, c'est bien montrer qu'on est à la tête de la nation et que la poésie, c'est ce qui compte le plus. La poésie d'avant-garde, c'est très sérieux. La guerre, c'est très sérieux. Et on peut faire les deux à la fois.
Après la guerre, on m'a envoyé pour se reposer dans un hôpital italien, Quai d'Orsay. Et il venait de sortir, justement, Apollinaire, et moi, je suis rentré. Il venait de sortir avec une tête bandée. Il avait l'air d'un pacha. Dans le boulevard Raspail, il faisait froid, il avait la neige, je me rappelle. Je me rends compte, je dis, monsieur Apollinaire, vous êtes donc encore ici? Il dit, ah oui, je suis ici encore. Et toi? Eh bien moi, je dis, je suis dans un hôpital. Alors nous avons parlé naturellement des macaronis exquis, n'est-ce pas? Des macaronis à l'italienne, n'est-ce pas? Tout à fait étonnante. Enfin bref, nous sommes répandus pendant un quart d'heure, parlant seulement que de la cuisine. Pas un seul mot était dit sur la poésie de la sculpture. Ça, c'était gardé pour soi-même. Pour d'autres instants. Et il n'y a pas très longtemps après, cet homme-là a attrapé la grippe, il est mort.
une anecdote qui m'a frappée, moi, c'est celle du retour de Jean Cocteau, permissionnaire, entre guillemets, pas permissionnaire au sens où il a essayé de partir au front. Son problème, c'est qu'il n'a pas vraiment trouvé sa place. Et puis finalement, on le renvoie à Paris. Donc lui qui n'était pas artiste ou qui essayait de l'être, qui essayait d'écrire aussi. Et quand il revient à Paris, son problème, c'est qu'il ne porte pas l'uniforme. Et donc, que fait Cocteau? Il se fait tailler un faux costume d'uniforme plus ou moins militaire. Et ça, c'est vraiment une anecdote très très belle qui dit vraiment la pression morale collective qui pesait sur les artistes pendant la guerre, et puis la fragilité de ces jeunes qui avaient besoin de faire semblant, entre guillemets, pour passer un petit peu inaperçu.
Il faut savoir que ce nationalisme et ce patriotisme préexistent à la guerre, bien auparavant.
Claire Mingon.
Dès les années 10, 11. On voit bien qu'en fait, dès avant la Grande Guerre, même le Salon, par exemple, des artistes indépendants en 1914, donne une bonne photographie de ce qu'était la tension, justement, entre les cubistes à cette époque-là. Il y a toute une partie des cubistes en France qui revendiquent, justement, un cubisme français. Je pense à André Lhote, par exemple, de La Fresnay, de Launay, qui vont introduire dans, en fait, leur iconographie un retour vers des traditions, disons, la tradition du portrait, par exemple, ou faire apparaître des drapeaux dans leurs tableaux. On essaye un peu de renier cette tendance au cosmopolitisme, qui est une des facettes de la vérité, mais qui ne résume pas l'ensemble des avant-gardes, justement pour promouvoir davantage un cubisme français. Et toutes ces questions vont s'exacerber dans la guerre. Le cubisme avait une image, disons, d'avant-garde trop ouvert au vent de l'internationalisme, trop cosmopolite, et que donc il était dangereux parce qu'il représentait un danger pour la future école moderne française qu'on espérait voir éclore après la guerre et qui serait plutôt classique.
Et donc on va voir, par exemple, les artistes revenir à la figure, revenir à des compositions centrées, revenir même à des techniques anciennes où on commence par mettre au carreau, faire du dessin. C'est ce qu'on appelle, par exemple, pour Picasso, la période ingresque qui arrive en 1915, où tout d'un coup il se met à faire des portraits de Max Jacob qui sont totalement académiques et qui sont d'ailleurs magnifiques, parce que quand même Picasso était un excellent peintre académique, et ça va marquer par exemple aussi Gino Severini, qui était un artiste du futurisme. Lui aussi se met à faire des portraits au crayon qui n'ont rien à voir avec ce qu'il faisait dans les années 10. Aussi on voit surgir, revenir des sujets plutôt religieux, des portraits familiaux qui semblent sortir de la bataille avant-gardiste, mais qui effectivement changent le panorama et font que certains artistes peuvent vendre plus que d'autres. Et donc on voit vraiment le marché reprendre au printemps-été 1916. Les expositions reprennent et Picasso fait partie des artistes justement valorisés par les marchands. Mais plus encore, ceux qui sont valorisés, ce sont ce qu'on appelait les cubistes français. Ce sont ces cubistes qui étaient à Montparnasse, mais n'étaient pas nécessairement tous à la ruche, justement, avaient pris leur distance de manière assez stratégique vis-à-vis de ces métèques qui étaient rejetées par une certaine critique d'art, et avaient même participé à leur rejet, et qui, tout d'un coup, comme tout le monde est parti, comme aussi les étrangers se cachent, Picasso quand même se planque aussi quand même. Tout d'un coup, c'est eux qui incarnent le cubisme, un cubisme français qui participera à la lutte contre la culture allemande. Ils ont pignon sur rue désormais.
Et pourquoi est-ce que le cubisme était considéré comme boche à un moment ?
Ça prenait appui, entre guillemets, sur certains petits détails que les ennemis du cubisme montaient en épingle, en particulier le fait que le marchand, deux marchands qui valorisaient le mieux le cubisme étaient allemands. Daniel-Henri Kahnweiler, donc le marchand de Picasso et de Braque, et puis Wilhelm Hood, qui était lui marchand, courtier, en tout cas qui organisait des expositions dans son appartement, rue de Feulerus, à Paris, près du jardin du Luxembourg, et qui lui-même participait aux expositions, prêtait des œuvres à l'étranger. Et surtout, donc, le cubisme non seulement était valorisé par ses marchands, vendu par ses marchands, mais surtout exposé beaucoup en Allemagne. Et donc, effectivement, les ennemis du cubisme avaient de bonnes raisons de dire, entre guillemets, c'est un art boche. Alors, les artistes, pour certains, l'ont pris en rigolant. On voit, par exemple, Braque et Picasso mettent des petits cas dans leur peinture pour se moquer aussi de cette assimilation, l'assumer entre guillemets.
Le cubisme
avec un cas. Voilà. Et c'était aussi une allusion au bouillon cube. Et ça aussi, on savait que le bouillon cube, c'était allemand. Et donc, il y a eu des amalgames qu'on voit bien dans la caricature de guerre, en particulier, où certaines caricatures, par exemple, représentent le peintre cubiste en train de faire des petits cas, des cacas, donc, sur sa toile, avec lui-même une tête de cubiste. Donc, autant en 1912, Picasso Braque pouvait s'amuser de cette accusation de cas, cubisme avec un cas, autant pendant la guerre, c'était moins drôle. Et on peut comprendre, du coup, leur retour à l'ordre, leur fameux retour à l'ordre.
Paris n'est pas occupé pendant la Grande Guerre, donc il y a une activité artistique qui reste assez soutenue. Il y a, par exemple, justement, en 1917, pour des raisons liées au besoin de soutenir l'effort de guerre et de continuer à mobiliser la population, de nombreuses expositions de propagande qui sont organisées à Paris, et notamment une très célèbre exposition que le grand public a appelée le Musée des atrocités allemandes, qui a présenté au Petit Palais tout un ensemble d'œuvres mutilées par la guerre et par les Allemands. C'est une expo assez pharaonique, montrant des choses très spectaculaires, comme des crucifix calcinés, des objets à la tête décapitée, aux mains coupées, etc., qui faisaient écho d'ailleurs à des rumeurs de la guerre. Donc c'est un climat plutôt de propagande, où l'art est totalement intégré en fait à cette propagande, même si ça ne résume pas l'ensemble de l'activité artistique. Il y a aussi des expositions qui n'ont rien à voir avec la guerre. Les ventes aux enchères continuent, les théâtres sont tout à fait ouverts, donc le climat est quand même plutôt à une activité assez intense.
Et on voit, par exemple, certains marchands comme Ambroise Vollard et même Durand-Ruel participer à l'organisation d'expositions d'art moderne, français, respectable, qui sont envoyées dans les pays neutres parce que, évidemment, les pays neutres, on veut les gagner à la cause du pays et parce qu'aussi on veut qu'ils vendent pendant la guerre où on est en pénurie, on veut qu'ils nous vendent à nous, donc on va leur montrer que nous, on favorise l'art, etc., etc. Donc ces œuvres-là, elles circulent.
Avec deux plantes vertes, vertes qui jamais ne porteront de fleurs. Où sont mes fruits? Où me protège? Où porte des rotelles? Alors j'ai devant toi distribuant des prospectus.
On essaye de faire à l'étranger ce qu'on appelle les semaines françaises.
Alexandre Kotzka.
Où il y a à la fois donc des expositions donc qui reprennent un peu le canevas de ce qui a été fait en 1900, dont le prototype est sans doute à San Francisco, mais ça se voit aussi en Suisse et dans les pays scandinaves, avec donc l'idée que la culture française est un tout. Donc vous avez la Comédie française, vous avez les défilés de mode, vous avez donc les grands chefs de l'époque, Cortot, donc qui joue lui un rôle officiel aussi au sein donc du service des Beaux-Arts. Et donc il s'adresse donc à une clientèle, enfin si on peut parler de clientèle, mais disons public plutôt bourgeois.
Et donc, on expose les Nabis, on expose Rodin, on expose plutôt quelques cubistes malgré tout. Qu'est-ce qu'on expose comme art visuel?
Alors, Rodin est effectivement très, très important. Donc, il y a une rétrospective Rodin. Donc, évidemment, Rodin donc, meurt en 1917. Donc, voilà, il y a une espèce de canonisation. Donc, il est déjà canonisé en France, mais donc, on va le recanoniser donc, à l'étranger. C'est plutôt les impressionnistes qui sont mélangés donc aussi à une peinture beaucoup plus traditionnelle, Léon Bonnat, voilà, enfin toutes les grandes gloires reconnues de la troisième République, hein, donc qui empruntent aux impressionnistes, qui conjuguent ça avec toutes les bonnes recettes que l'on apprend à l'école des Beaux-Arts.
Il fait un peu long, et vos cheveux sont... Ressemble-t-on à ces deux grands ballons qui
Le Louvre a été fermé, donc c'est l'une des premières décisions faites du gouvernement à l'entrée en guerre. On craint surtout que les Allemands attaquent Paris. Et donc là, on prend la décision d'abord de remiser les collections dans les sous-sols, puis ensuite d'envoyer, sous le principe d'une évacuation, une grande partie des collections vers Toulouse. La Joconde est en caisse, la Vénus de Milo est en caisse. Ce n'est pas pour cela que les artistes oublient le Louvre, et je pense que d'ailleurs le manque du Louvre a été un élément important dans ce qu'on appelait le retour à l'ordre des années 1920, c'est-à-dire le retour vers les maîtres du Louvre notamment. Donc les artistes continuent à penser en fait aux œuvres majeures, en rêve, et parfois vous savez que quand on manque de quelque chose, c'est là finalement où le besoin est plus fort. Donc les artistes effectivement vont, comme Matisse par exemple, vont travailler sur des revisitations poétiques de certains chefs-d'œuvre du Louvre. Il me semble aussi que si Marcel Duchamp choisit de parodier la Joconde au sorti de la guerre, c'est pas non plus un hasard. La Joconde était devenue une véritable icône patriotique pendant la Grande Guerre. On l'a fait dans les carnavals patriotiques, on se grime en Joconde. Il y a des tas de cartes postales, d'iconographies populaires où on a le retour de la Joconde auprès du, enfin le retour du poilu auprès de la Joconde. Enfin, tout un imaginaire autour de cette œuvre. Donc, les œuvres du Louvre sont conviées en fait dans la propagande et je dirais dans la culture populaire en fait de la guerre.
On va peut-être revenir dans le bureau parce qu'il y a un...
Non, pas vraiment. Regarde, on est dans une réserve.
Oui.
Voilà, donc il y a toutes les boîtes, il y a des décors, voilà. Des tableaux qui sont conservés ouais. Au frais.
Voilà.
C'est pour ça qu'il y a tout ce bruit.
Voilà, c'est la climatisation.
Alors, on a récupéré deux grandes boîtes.
Voilà.
Alors, donc, c'est une boîte en carton toilé, grise.
Oui. Boîte de conservation, c'est classique. Voilà.
C'est le costume de l'acrobate, c'est un juste au corps en maille. Donc on pourrait imaginer que c'est la même maille dont on faisait les maillots de bain qui grattaient.
Exactement. Voilà. Et vous voyez, il y a parade Monsieur Zverev. Nicolas Zverev.
Le nom du danseur. Mmh. Voilà, donc c'est un juste au corps tout d'une pièce, voilà. Blanc et bleu.
Voilà.
Avec
des étoiles, des petits accros, on voit qu'il a vécu.
Des reprises.
Des
tâches.
Voilà.
Et donc on voit des motifs d'étoiles, des motifs de... On
pourrait dire quoi, de rinceaux.
Oui. Donc bleu clair et blanc.
Voilà, alors la couleur
comme des nuages
passée,
sur le ciel.
Donc ce sont comme des reliques.
Et alors qu'est-ce qu'il y a dans cette grande boîte?
Alors dans cette grande boîte, il y a...
Mathias Auclair.
Un manuscrit de Satie pour la préparation de cette œuvre, qui sont des cahiers préparatoires. Là, c'est une version... définitive, alors pas la version orchestrale, mais une réduction, comme on dit, pour piano à quatre mains.
Voilà, donc parade, un ballet, thème de Jean Cocteau.
Rideau, décor et costume de Picasso, chorégraphie de Massine. Voilà, donc toujours très bien présenté, très beau manuscrit.
C'est un graphiste aussi, Eric Satie.
Magnifique.
D'une certaine manière, c'est incroyable, ouais, là, cette écriture.
Voilà, et donc on a une partition typique de piano à quatre mains. Donc, prélude au rideau rouge. Prestidigitateur chinois. Pardon. Ben, ça fait... Tana eli lole li loli le li la 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 ni li de loli la li loli la la li le loli la la lolo.
Jean Cocteau.
Il est inutile de te battre la mesure, je suppose. Tu reconnais Parade, ce qui fut ton scandale à toi.
Ben, c'est un de mes scandales, oui. Satie me plaisait parce qu'il cherchait à déplaire.
Satie représentait une arme de premier ordre pour nous. Il contredisait l'impressionnisme musical. J'ai réuni Picasso et Satie pour faire le ballet Parade et nous avons été à Rome avec les ballets russes, avec Diaghilev. Mais Satie n'y était pas. C'est là qu'il a connu sa première femme, Olga, qui était danseuse. Et nous avons été aidés à Rome par les futuristes qui correspondaient en Italie aux cubistes, enfin qui eux causaient leur scandale pendant que nous causions les leurs. Le travail de Parade a été un travail dans le domaine du geste équivalent à celui de la à ceux de la plastique. Massine en était encore à ce que j'appelle la grimace du geste, et je lui ai demandé de hausser les gestes de la vie réelle jusqu'à la danse, de les déformer jusqu'à la danse.
Alors, Parade, c'est a lieu en 1917, mais évidemment, l'histoire des ballets russes est plus ancienne. Hein. Diaghilev organise des sortes de saisons parisiennes à partir de 1906, d'abord sous la forme d'une exposition de peinture, dans le cadre du Salon d'automne, l'année suivante à l'Opéra, des concerts historiques russes, l'année suivante une série d'opéras russes à l'Opéra de Paris, et en 1909, pour toute une série de circonstances, une saison de ballet qui a lieu au Châtelet. En France, on est dans le contexte, bien sûr, des relations franco-russes, la préparation de la guerre, les empereurs russes. Enfin, il y a évidemment un contexte international extrêmement riche qui explique cette présence russe à Paris. Cocteau étant appelé en 1911 à créer un ballet pour les ballets russes, Le Dieu Bleu, qui était une catastrophe commerciale. C'est à la suite de cette catastrophe que Diaghilev aurait dit à Cocteau « Étonne-moi » et ça a donné Parade. La grande qualité de Diaghilev, c'est le flair. Et c'est quelqu'un qui sent les choses et qui s'adapte en permanence à l'environnement. On dit parfois que c'est un mécène sans argent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille avec l'argent des autres, et donc il faut qu'il réussisse à ce que les autres lui donnent de l'argent. Donc il a cette capacité assez unique de se mettre au diapason, et tout en créant avec une légère longueur d'avance, alors pas trop à l'avant-garde pour ne pas être complètement en rupture avec le public, mais en même temps avec ce petit aiguillon de l'avant-garde qui fait qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. En fait, c'est finalement les ballets russes qui ne font plus des ballets à coloration russe. Alors, c'est assez intéressant de noter que ce moment arrive au moment de la Révolution russe, comme si la Révolution russe avait marqué une sorte de rupture non seulement politique, mais aussi culturelle, et que ça coupait politiquement et diplomatiquement les ballets russes de leurs attaches en Russie. Un certain nombre de membres de cette compagnie ne sont jamais retournés en Russie après 1917, mais aussi une rupture culturelle. C'est-à-dire que finalement, la vieille Russie s'était terminée, que la compagnie russe hébergée entre Paris et Monaco se tournait davantage vers les recettes plastiques occidentales.
Emilia Filippo, là on est donc devant un panneau, peut-être qu'on peut s'approcher, il y a quelques dessins qui ont été faits justement par Picasso quand il était à Rome, au moment où il travaillait sur Parade et où il courtisait Olga. Ce sont des caricatures pour la plupart, des dessins comme ça, faits rapidement.
Oui, ce sont des dessins très enlevés hein, qui fonctionnent en série. Là, on en présente justement plusieurs où Picasso va croquer avec beaucoup de verve donc les principaux protagonistes de cette aventure des ballets russes à Rome. Donc on reconnaît très explicitement Diaghilev avec son monocle et son chapeau et puis ses postures un peu rustres comme ça avec sa canne. Et puis on a aussi Léon Bakst hein, qui est le grand décorateur des ballets russes ou encore Léonide Massine avec son chapeau qui lui sera le chorégraphe du ballet Parade. Au centre, on a un autre dessin qui est assez amusant, qui est un dessin de Cocteau. qui représente justement Picasso et Olga à la terrasse d'un café, où on voit Picasso en train de mettre sa main autour de l'épaule d'Olga, et Olga se croise les bras et cache son visage comme si elle était un petit peu effarouchée par le jeu de séduction de Picasso.
Alors comment s'organise le travail à Rome, Emilia Filippo ?
À Rome, Picasso va s'intéresser essentiellement aux costumes et aux décors. L'intervention de Picasso, elle va pas être uniquement sur les costumes, elle va aussi être sur l'ensemble de l'argument et du déroulé du spectacle. Je pense que Cocteau avait conscience du génie, évidemment, de Picasso et surtout de son intérêt pour l'avant-garde en général et pour les nouvelles formes d'expression plastique. Et Parade, c'est un petit peu la conjonction de tout ça. On est sur de la danse, sur de la peinture, sur de la musique, sur du théâtre. Ça intègre aussi l'art populaire puisqu'on a l'influence du cirque, de la magie, des réclames publicitaires. La musique est de Satie, certes, mais on a aussi beaucoup de bruitage. On a notamment des bruits de machine à écrire sur le numéro de la petite fille américaine qui va mimer Charlot, qui va mimer des danses contemporaines inspirées aussi par le jazz. Donc on est dans quelque chose de très moderne et on le doit à Cocteau hein, d'avoir fait cette proposition d'argument général qui au départ est juste une idée couchée sur le papier et puis d'être sur les à côté du spectacle finalement, parce que Parade c'est l'invitation au spectacle mais on ne voit jamais le spectacle, c'est l'avant-spectacle et Picasso a bien compris aussi tout l'enjeu de ce ballet puisque quand il va réaliser le rideau de scène il va aussi nous donner à voir les coulisses du spectacle.
Alors peut-être justement, je vois qu'il y a une photo au bout de la salle où il y a un morceau du rideau qui est représenté. Et je crois qu'on voit Picasso et d'autres installés carrément sur le rideau.
Oui, alors c'est une photographie qui est bien connue, qui est prise donc en plongée, hein, c'est un point de vue en hauteur, où on voit Picasso et ses assistants assis littéralement sur le rideau, sur la partie centrale du rideau, ils sont assis sur la table, ce qui est assez drôle puisque, je vous le disais, le rideau représente les artistes attablés avant ou après la représentation, et donc là on prend toute la mesure des dimensions colossales de ce rideau, hein, qui fait... si mes souvenirs sont bons, presque 17 mètres de large. Donc on est vraiment sur une composition monumentale. Mais en tout cas, c'est vrai que ce rideau est d'influence très classicisante. On est sur une thématique traditionnelle du banquet, avec des personnages tirés de la Commedia dell'arte, des arlequins, des colombines, une petite écuyère juchée sur une échelle, un singe. Enfin, on est vraiment dans le registre traditionnel du monde du spectacle. Et quand le rideau se lève, on ouvre le spectacle avec ces fameux managers qui sont ces constructions cubistes qui elles-mêmes se développent dans un décor d'influence cubiste et puis qui rythment des numéros qui pour le coup eux sont dans une veine plus réaliste. Par exemple le costume de la petite fille américaine pour lequel Picasso a fait plusieurs dessins sera finalement acheté dans une boutique telle quelle, un ready-made j'ai envie de dire du costume de ballet pour dire aussi toute l'implication et la volonté de faire entrer la vie réelle et la vie moderne dans le monde du spectacle.
Compte tenu du contexte de retour à l'ordre, on ne s'attend pas du tout à voir apparaître ce genre d'innovation musicale, décorative, plastique aussi, et scénographique. Donc c'est l'histoire d'une troupe qui met en place un spectacle et qui, avant de jouer son spectacle, essaye de faire venir le public. Donc qui pose tout de suite le problème du public, qui est quand même un problème concret, qui pose aussi la question de la publicité. Ça, c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire des avant-gardes, de la prise de conscience qu'on ne peut rien être, rien faire si on n'a pas la presse avec soi, si on n'a pas un public. Et avec le public, une notoriété à laquelle le public participe. Ce qui est nouveau et ce qui va faire un peu fureur dans les milieux un peu à la pointe qui savent ce qui se passe, c'est que les décors sont faits par Picasso. Alors Picasso, qui est, c'est le grand nom de l'avant-garde. C'est cet artiste dont on sait qu'il est extrêmement novateur, qui en plus, avec surtout son marchand Daniel Henkheimweiler, a suscité beaucoup de curiosité et beaucoup de désir. Parce qu'on ne voit pas ces œuvres dans les salons parisiens. Souvent, les œuvres sont envoyées à l'étranger. Et où sont-elles envoyées depuis 1900 1910 et surtout 1911, 12, 13, elles sont surtout envoyées en Allemagne, hein, chez le rival économique, culturel, politique et en Russie aussi. Donc ça, c'est en gros Parade, c'est à la fois un spectacle novateur, une équipe d'avant-garde, et puis un projet, celui de Cocteau, qui veut vraiment, ça lui tient à cœur, qui veut faire passer l'art moderne, l'avant-garde, du côté de ce qu'il appelle la rive droite, dans les beaux milieux. Et ça, c'est essentiel parce que quand on regarde l'histoire d'un point de vue un peu éloigné, d'un point de vue sociologique, les révolutions symboliques, c'est-à-dire les changements collectifs dans les goûts, ils se font toujours par le biais des couches sociales supérieures. Et donc, ce que Cocteau va faire, pas seulement avec Parade, mais avec plus généralement l'organisation d'expositions, de ballets, de numéros spéciaux, des publications, des poésies, etc., il va contribuer à faire passer l'avant-garde, donc le goût pour des architectures modernes, le goût pour des costumes un peu déjantés, pour une musique totalement déstructurée, parce que c'est comme ça qu'elle est perçue, la musique de Satie. Il va faire passer ce goût-là, cette ouverture culturelle, et aussi donc sociale, morale, etc., dans les milieux de l'élite parisienne.
Valentine Hugo.
Parade prit forme vers la fin de cet hiver, 1915 à 1916. Jean Cocteau s'en alla vers le front, au nord, avec les convois automobiles du comte Étienne de Beaumont, et c'est du secteur 131 que me vinrent ces lettres. Toute la France était malheureuse, c'était le temps de Verdun. Il neigeait. Et cependant, les poètes écrivaient, les musiciens composaient. Mais enfin, Parade ne prenait pas encore vraiment forme. Cela flottait dans l'air, vous comprenez, sans plus. Et Satie n'était pas toujours de bonne humeur. En juillet 1916, il m'écrivait « Parade se transforme en mieux derrière Cocteau. Picasso a des idées beaucoup plus belles que celles de notre Jean. Et Cocteau ne le sait pas. Que faire ? Picasso me dit de continuer sur le texte de Jean et lui, Picasso, travaillera sur un autre texte, le sien, qui est étourdissant, prodigieux. Je deviens fou et triste. Que faire ? Connaissant les belles idées de Picasso, je suis navrée d'être obligée de composer sur celles du bon Jean. Moins belle. Oh oui, moins belle. Que faire ? Que faire ? Écrivez-moi pour me conseiller. Je suis fou.
Un petit carnet qui a appartenu à Cocteau. Alors, que voit-on ? Là, vous voyez, il y a un petit argument, une sorte de manifeste. Parade est très court. Nous avons essayé d'y mettre le plus de choses possible, tout en restant gros comme le guignol. On va voir, normalement... Donc là, on reconnaît le cheval.
Oui, c'est un cheval qui était habité par deux danseurs.
Exactement, exactement. Là, on reconnaît très très bien... C'est la petite fille américaine. Là, on a Diaghilev avec son monocle. Là, il dit les managers de Picasso pris dans les décors, qui bougent avec eux, on parle leur taille et leur poids, obliger le chorégraphe de sortir franchement des vieilles formules. Parade. Un ballet réaliste.
Donc un ballet réaliste, c'est déjà tout un programme.
Voilà.
Alors le mot réaliste, en 1917, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire, il est temps de mettre de la réalité dans les arts. La réalité, sachant que la réalité en 1917, c'est pas une réalité joyeuse du tout. C'est les tranchées, c'est les gaz moutardes, c'est la peur d'une invasion allemande, c'est la guerre qui s'enlise, c'est le manque. Donc la réalité, elle n'est pas drôle. Hein. Un ballet réaliste, quand on lisait ce titre à l'époque, on pouvait se dire, oula, qu'est-ce qui nous attend ? Ballet réaliste aussi, c'est l'introduction dans le ballet du réel, dans la musique, dans les décors, dans les costumes, dans la scénographie. Pour ce qui est du décor, c'est l'introduction du côté assumé du décor, au sens où on voit que le décor est un décor. Vous avez une balustrade, un rideau, et puis pas plus, et ça change pas. Et cette balustrade, elle est tellement mal peinte que vous voyez qu'elle a été peinte, et vous vous dites que vous auriez pu le faire vous-même. Le côté aussi réaliste des
cette fois-ci des costumes, ce sont c'est des costumes en carton. Et ça, c'est une introduction de la réalité, alors qui a son histoire, hein, qui tient compte de l'évolution des réflexions des artistes, qui ont tellement besoin de lier leur art au quotidien, au concret, à la vie, hein, au sens de la vie vécu et qui vous touche, qu'ils l'ont transféré dans des spectacles, d'abord dans des œuvres assez intimes et puis ensuite dans des spectacles ou des expositions. Donc dans la réception de Parade, il y avait de tout cela, qui fait que Parade a contrairement à ce qu'on entend parfois, Parade a eu du succès. Parade a touché une génération. À l'international, aussi bien ceux qui ont vu le spectacle à Paris que ceux qui l'ont vu, je crois que c'était à Monte-Carlo, la deuxième ou première, à Barcelone surtout, voilà, j'allais venir, avec Miro, par exemple, Joan Miró, donc jeune artiste débutant, peintre, fasciné par évidemment son compatriote Picasso, et quand qui donc vient lui-même, passe par l'impressionnisme, puis par une peinture très colorée, de type un peu fauve, et quand Miro voit Parade, là il se dit il y a quelque chose, il faut que je quitte Barcelone, je vais aller à Paris et la réalité je vais la trouver dans ce type d'avant-garde.
Le ballet Parade, c'est aussi le ballet qui inaugure le terme de surréalisme puisque la critique que va en faire Apollinaire dans le livret va parler hein, de termes va introduire ce terme pour essayer de décrire cette nouveauté absolue qu'on perçoit au moment du spectacle et qui va faire littéralement scandale. Et Cocteau dira que heureusement Apollinaire était présent et que du fait de sa blessure de guerre, de son engagement aux côtés de la France, il a évité que ça tourne vraiment au pugilat. Ils ont été taxés de boches, de métèques.
On voulait nous tuer, des dames se précipitaient sur nous avec des épingles à chapeau. Nous avons été sauvés par Apollinaire parce qu'il avait la tête bandée, il était en uniforme et on le respectait. Il se mettait devant nous comme un rempart. Mais nous avons entendu Picasso et moi. Un monsieur qui disait à un autre, si j'avais su que c'était si bête, j'aurais amené les enfants.
Parade a été perçue dans certains milieux comme une insulte. Au sacrifice des jeunes, parce qu'ils étaient très jeunes, hein, ceux qui partaient au front. Donc on peut comprendre qu'effectivement, Parade était perçu comme l'exemple type de ces milieux-là qui ne participaient pas à l'effort collectif de la guerre. Mais il n'y avait pas que Parade. On voit dès 1914-1915 tout un mouvement qui dit maintenant, nous avons suffisamment fait la fête. Et nous payons presque un libéralisme culturel trop fort qui a fait que le pays s'est effondré. Tout ça, c'est évidemment, c'est toute une rhétorique. Mais effectivement, il y a eu un grand débat culturel sur pour ou contre la modernité. Alors, dans les milieux modernes, il y a beaucoup d'artistes et de critiques d'art et d'écrivains, de poètes qui ont fait le choix, un peu, ont réussi à ménager la chèvre et le chou. Apollinaire en fait partie en disant, mais non, nous sommes modernes et nous sommes patriotes. Et juste après Parade, Apollinaire va se consacrer à l'écriture et à la mise en scène des Mamelles de Tirésias, où on a vraiment un discours très patriote, où il faut faire des enfants pour repeupler la patrie, contribuer à l'effort de guerre, etc. Alors cette tendance, on va dire, patriote de certaines avant-gardes, elle n'est pas neuve à cette époque. Il y a eu plusieurs débats sur faut-il ou non faire place à l'avant-garde étrangère, l'art d'avant-garde est-il ou non influencé par les étrangers? Dès ce moment-là, on voit certains artistes qui, en fait, sont en position fragile. Souvent, ils sont eux-mêmes immigrés. Apollinaire était un immigré. Il n'avait pas la nationalité française. Et donc, ces milieux se rencontrent dans la construction d'une modernité française, patriote, anti-allemande, ce qui n'empêche pas l'amitié avec les Russes ou l'amitié avec les Italiens, mais donc une modernité, en fait, de la triple entente contre la triple alliance qui va aboutir, justement, aussi dans Parade. Parce que le Parade, c'est bien ça, hein. Vous avez la présence des Russes qui s'allient donc avec Cocteau, avec le manager américain, hein. Donc c'est aussi une triple entente des alliés qui fait sa parade sur la scène du Châtelet en 1917.
Alors, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, Apollinaire ? Eh bien, il est conseiller, en fait. Il va les voir, il regarde ce qui se passe. Et finalement, Cocteau et Satie lui demandent d'écrire le programme. C'est-à-dire, l'idée que ce qui se passait entre ces 20 minutes à peine de musique, ce texte, cet immense rideau cubiste qui se trouvait derrière, ça dépassait ce que même l'avant-garde était capable de faire et qu'ils avaient fait. Et en plus, en pleine guerre. Et c'est le moment où il invente surréalisme. Et les gens qui voulaient réussir, eh bien, ils venaient le voir. C'est aussi simple que cela.
Je lègue à l'avenir l'histoire de Guillaume Apollinaire, qui fut à la guerre et sut être partout. Dans les villes heureuses de l'arrière, dans tout le reste de l'univers. Dans ceux qui meurent en piétinant dans le barbelé, dans les femmes, dans les canons, dans les chevaux, au zénith, au nadir, aux quatre points cardinaux, et dans l'unique ardeur de cette veillée d'armes. Guillaume Apollinaire.
Et on voit bien là le poids de la guerre. Et pour lui, ne pas se battre, ce n'est pas admissible. Ce qui est intéressant, c'est que Picasso n'a jamais été prêt dans l'histoire. Alors que Picasso, lui aussi, a réservé son génie à l'art, on ne peut pas lui en vouloir. Non plus, mais c'est étonnant qu'il ait échappé. D'autant plus que Picasso était quand même sacrément gonflé, si on peut parler de ce grand homme de cette façon-là. Au début de la guerre, il se moque d'Apollinaire. Il fait un portrait de lui en canonnier, où il a l'air d'un terrible idiot, et il écrit en énorme le canonnier Kostrovitsky. C'est-à-dire qu'il lui donne son nom polonais, qu'il refuse absolument, qui peut être allemand ou qui peut être autrichien, c'est insupportable en 1914, c'est le pire qui puisse lui arriver. Et donc, il ose en plus se moquer de lui. Et bien pourtant, il ne lui en voudra jamais de ne pas avoir été combattant. Donc on voit bien que là, l'accord extraordinaire sur le génie, sur l'invention permanente, c'est ça qui fait leur différence. C'est qu'ils inventent quelque chose chaque seconde. L'un en littérature et l'autre en art plastique. Et c'est ça qui les lie au-dessus des querelles personnelles et des querelles politiques, je dirais.
Alors peut-être pour finir, on peut voir, je crois qu'il y a dans cette salle quelques témoignages du mariage d'Olga et de Picasso qui a lieu en 1918, mais qui est quand même la suite de ce qui s'est passé en 17.
Exactement. Donc on a une petite vitrine qui est consacrée au mariage, qui est assez touchante parce que ça commence donc avec un petit billet d'Olga et de Pablo, un serment de fidélité où les deux amoureux se prêtent fidélité et ils s'engagent à vivre jusqu'à l'amour en paix et amour. Celui qui cassera ce contrat sera condamné à mort. Donc quand on sait la manière dont leur histoire va terminer, c'est un petit peu doux amer, mais en même temps ça montre cet enthousiasme et cette union qui est le fruit d'un amour sincère et passionné. On a aussi un petit billet qui est très amusant, adressé de Picasso à Guillaume Apollinaire, donc qui sera l'un de ses témoins. Il lui adresse la veille du mariage: « Mon cher Guillaume, tu dois avoir eu ma carte pour que tu sois à la mairie du 7e demain à 5h mardi. Je voudrais savoir si tu peux venir, et si pour quelque chose tu serais empêché, dis-le-moi pour que je tâche de trouver un autre témoin pour demain. Bien à toi, ton cher ami Picasso. » Et puis on a un carnet où Picasso dessine sa main droite avec un anneau à l'annulaire, qui est bel et bien son alliance, puisque Olga est en russe. Il se marie à l'église orthodoxe de la rue Daru à Paris, et dans le rite orthodoxe, l'alliance se porte à la main droite. Donc on a aussi une manière métaphorique pour Picasso de représenter son mariage. Nous, sous-signés Olga Koklova et Pablo Picasso, de vivre jusqu'à la mort en paix et amour. Celui qui cassera ce contrat sera condamné à mort. Olga Koklova, Picasso, 4 mars 1918.
Merci à Mathias Auclair, Annette Becker, Béatrice Joyeux-Prunel, Alexandre Kotska, Claire Mingon et Emilia Philippot. Archivina, Clary Monac et Aude Vassan. Prise de son, Raymond Albouy, Yann Fressy et Georges Thau. Merci aussi à Marion Rivet. Mixage, Pierrick Charles. Pendant la guerre, l'avant-garde continue. Un documentaire de Perrine Kervran, réalisé par Ghislaine David. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez côtoyer Eric Satie, bibliographie, lien, nous podcaster pour l'opéra, nous réécouter au Dôme, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, troisième épisode, Dada, Duchamp, Breton ou le grand dégoût de l'art.